Donc on va commencer le chapitre 23, qui est un sujet assez complexe. Donc on va essayer d'abord d'aborder quelques notions, on va faire une dizaine de lignes comme ça. Et après, si Dieu veut, si vous avez des questions, on va s'arrêter pour élaborer tout ça. Alors, on a expliqué dans les chapitres précédents, depuis le chapitre 20 jusqu'au chapitre 23, auquel on va commencer aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes arrivés à la conclusion, comment en vérité, croire dans le fait que Dieu est unique et que le monde entier en vérité c'est une seule entité qui s'appelle Dieu, non seulement que c'est important, mais c'est fondamental pour le judaïsme. Et c'est ça le sens du schéma Israël. Ça veut dire accepter que tout ce qui m'entoure, c'est Dieu. Pas il y a Dieu et il y a la table. Dieu c'est la table. Et Dieu c'est moi. Alors dans ce cas-là, la question qu'on a posée, on a dit, mais dans ce cas-là, comment j'arrive à faire des avérotes dans ce cas-là? On avait expliqué que Dieu nous donne un sentiment de pseudo-indépendance. On se sent indépendant, et comme je me sens indépendant, alors je crois que je fais ce que je veux. Et on avait terminé le cours la semaine dernière en expliquant que finalement, on se rend compte quand on étudie ça, que quand on fait une avéra, c'est très très grave. Mis à part le fait que quand je fais une avéra, j'ai enfreint à la volonté de Dieu. Dieu m'a dit, ne le fais pas, je l'ai fait. Mais encore plus que ça, quand je fais une avéra, c'est comme si je fais l'idolâtrie, parce que je suis en train de dire qu'il n'y a pas de patron, c'est moi le patron ici. Donc c'est pour ça qu'on a expliqué que l'Avodah Zarah, c'est une base de la Torah. Croire en Dieu, c'est une base de la Torah. Et de la même manière, ne pas faire Avodah Zarah, ne pas faire d'idolâtrie, ça veut dire faire une avéra, d'une certaine manière. Ça aussi, c'est une avéra qui est très grave. Alors maintenant, ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, le chapitre 23, on va essayer d'expliquer avec ça, avec ces notions qu'on a expliquées. Ça veut dire, si vous voulez, on est arrivé à un chidouche avec ces chapitres-là, que finalement, il n'y a aucune entité qui est extérieure à Dieu. Jusqu'à ce chapitre, on a toujours cru que Dieu était le grand patron. Il y a un grand patron qui décide tout, mais je ne peux pas dire que le patron, c'est la boîte. Il y a le patron, maintenant le patron, il y a des locaux, il y a des employés. Le patron, il dirige ses employés. Mais le patron, ce n'est pas les employés, et les employés, ce n'est pas le patron. Et c'est comme ça qu'on a toujours compris. Depuis enfant, on s'est toujours imaginé que Dieu, c'est le patron, et que Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais là, le chidouche, la nouveauté qu'on a expliquée jusqu'à maintenant, dans ces derniers chapitres, c'est que c'est pas seulement que Dieu c'est le patron. Dieu c'est tout. Dieu, ça veut dire Dieu c'est les employés et Dieu c'est tout. Parce que c'est une seule grande entité qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Alors, avec cette nouvelle notion qu'on a innovée, qu'on a expliquée, on va expliquer quelques notions du Zohar. Alors, vous allez voir cette notion, c'est une notion qui est pas facile, qu'on va expliquer aujourd'hui. Mais Bezrat Hashem, on va prendre le temps qu'il faut pour la développer. Ve'im kol haniskar le'el, chapitre 23, tout de suite. Ve'im kol haniskar le'el, avec tout ce qu'on a expliqué dans le chapitre 20, 21, 22, c'est un petit peu, mais surtout 20-21. Donc on a expliqué que le monde entier est une seule entité qui s'appelle Dieu. Yuvan, veuillez voir Etev, on va mieux comprendre. Betosefet bio, avec plus d'explications, parce qu'on a déjà élaboré ce sujet dans le chapitre 4 et 5, mais là on va plus mieux le comprendre. Ma'ashe amru bezoar, ce qui est écrit dans le Zohar, de oraita vekutchabrihu kulachat. Le Zohar dit la chose suivante. Il dit, la Torah et Dieu, c'est une seule chose. En d'autres termes, quand j'étudie la Torah, j'étudie Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, quand on étudie la Torah, c'est très important d'étudier la Torah, même si des fois c'est pas des sujets pratiques ou des sujets qui nous parlent dans la vie de tous les jours. En général, on essaie toujours de trouver comment c'est des sujets qui nous parlent. Mais des fois, quand tu vas, par exemple, tu vas étudier par exemple une page de Guémara. C'est pas toujours des choses qui sont concrètes. On va te parler des choses comme des fois des sacrifices ou des choses comme ça, des choses que tu feras pas maintenant dans ta vie aujourd'hui. Alors pourquoi tu les étudies? Parce que c'est une perte de temps? C'est pas une perte de temps. Pourquoi? Parce qu'on te dit que Dieu et la Torah, c'est une seule chose. Ça, c'est un premier Zohar. Donc il y a un premier texte dans le Zohar qui dit que Dieu et la Torah, c'est une seule chose, une seule entité. Mais d'un autre côté, il y a un deuxième texte du Zohar, ou Betikunim, dans Tikkun et Zohar, Pirshu, ils ont expliqué, des remar pikudim, que les 248 mitzvot, inun, correspondent remar evarim des malka. Les 248 mitzvot correspondent aux 248 membres du roi. Alors ça, c'est plus curieux, et c'est là que ça va se ressentir un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Bon, de me dire que la Torah, c'est la volonté de Dieu, que la Torah, c'est unie avec Dieu, ça, y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu me dis que les 248 mitzvot correspondent aux 248 membres de Dieu? D'abord, est-ce que Dieu a des membres? Ça veut dire quoi, Dieu a des membres? C'est quoi cette idée-là? Est-ce que Dieu a des membres? Alors, on a l'impression qu'il y a membre numéro 1 ou numéro 2, et quand je fais la mitzvah numéro 1, ben, ça correspond au membre numéro 1 d'Akadosh Baruch Hu. Mais on dit bien, dans le Yigdal, qu'est-ce qu'on dit? En lo demut haguf, Veinoguf. Dieu, ni il a l'image d'un corps, ni c'est un corps. Et pourtant, le Zohar nous dit clairement. Le Zohar nous dit clairement, il dit que les 248 mitzvot correspondent aux 248 membres. Parce que vous savez qu'on a 248 membres. Il y a un décompte très clair dans la Mishnah. On a 248 membres. Et donc, apparemment, les 248 mitzvot positives qu'on a, parce qu'il y en a 613 en tout, mais sur les 613, il y a 248 positives, les 248 correspondent aux 248 membres de Dieu. Donc, quand j'étudie la Torah et Dieu, c'est une seule chose, et après tu me dis que les 248 mitzvot correspondent aux 248 membres d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire? Et en fait, pour pousser un peu plus loin la question, ça c'est une grande question aussi, quelle est la différence entre la Torah et les mitzvot? Par exemple, vous savez, on dit toujours une personne, on dit il est shomer Torah ou mitzvot. Quand on veut dire quelqu'un de religieux, comment on dit quelqu'un qui garde la Torah et les mitzvot. Bah, c'est un pléonasme. S'il garde la Torah, c'est qu'il garde les mitzvot. S'il garde les mitzvot, c'est qu'il garde la Torah.
Ça se discute.
D'accord. Je vais vous dire plus que ça. C'est le droit de garder la Torah. Je comprends pas. Étudier la Torah, c'est une mitzvah, non? Donc, si tu fais les 613 mitzvot, automatiquement, une des 613 mitzvot, c'est étudier la Torah, donc tu as étudié la Torah dedans. Et pourtant, on voit, et c'est pas d'aujourd'hui ça, dans le Zohar, dans la Gemara, on a toujours différencié d'un côté Torah, d'un autre côté mitzvot. Et là, vous voyez bien dans ces deux textes du Zohar. Le Zohar te dit, l'étude de la Torah, c'est un seul corps avec Dieu, d'accord? Les 248 mitzvot, c'est les 248 membres. À quoi ça correspond? Et dans ma vie, dans la pratique de tous les jours, est-ce qu'on peut faire une différence entre la Torah et les mitzvot? Est-ce qu'on peut être shomer Torah sans être shomer mitzvot? Est-ce qu'on peut être shomer mitzvot sans être shomer Torah? Vous comprenez? Vous voyez ma question?
Ouais.
Théoriquement, c'est impossible.
Si.
Alors, allez-y.
Des personnages comme ça.
Donc, des gens qui étudient la Torah, peut-être, vous voulez dire.
Ou des gens qui sont très férus ou très férus en Torah ou qui ont étudié dans leur jeunesse, mais qui ne sont pas pratiquants dans leur.
Donc, ils ne respectent pas la Torah aujourd'hui.
Mais qui sont très férus Torah, qui ont étudié ou qui ont
étudié. D'accord. Mais ils ne respectent pas la Torah. Oui, d'accord, j'ai compris. Mais on dit shomer Torah ou mitzvot. Pas quelqu'un qui connaît la Torah, on dit shomer Torah. Quelqu'un qui garde la Torah.
Comme un bijou.
Alors, si j'observe la Torah, c'est que je sers les mitzvot. Si j'observe les mitzvot, c'est que j'observe la Torah. Je veux dire, on va donner un exemple. La Torah, c'est un mode d'emploi. Dans ce mode d'emploi, il y a écrit les instructions. D'accord? Donc, si j'observe le mode d'emploi, c'est que j'observe les instructions. Si j'observe les instructions, c'est que je suis le mode d'emploi. C'est la même chose.
Vous êtes un super avocat qui connaît très bien le code civil et qui, dans sa pratique, ne l'a
pas. Ah, dans ce cas-là, il ne respecte pas le mode d'emploi.
Il le connaît.
Mais il ne le respecte pas.
Il ne respecte pas.
Donc c'est un pléonasme. Shomer Torah et mitzvot. Et surtout, attention, comme j'expliquais, ce qui nous dérange, c'est que à la limite, si le Zohar n'avait pas différencié, on aurait pu dire que c'est une manière d'expliquer. Garder la Torah et les mitzvot, c'est une seule chose en vérité. Mais vous voyez bien,
j'attends.
Que le Zohar différencie. Le Zohar met deux grandes catégories. Il dit, l'étude de la Torah, ça s'appelle... ce qui forme un seul corps avec Dieu, d'accord? Les mitzvot, c'est les membres de Dieu. D'abord, c'est quoi les membres de Dieu? Et en plus, pourquoi différencier la Torah et les mitzvot? Alors, on avait...
les membres de Dieu.
Les membres de Dieu, oui.
Vous avez évoqué les anges aussi, non?
Non, les membres. Les anges,
non,
pas
les membres.
Alors, avant d'avancer dans la suite, il dit ici qu'on va mieux expliquer. Pourquoi mieux expliquer? Parce qu'en chapitre 4 et chapitre 5, on s'est arrêté dessus, cette question. Très brièvement, mais on s'est arrêté dessus. Et on a expliqué, qu'est-ce qu'on a expliqué dans chapitre 4, chapitre 5? On a dit qu'en vérité, on pourrait expliquer que la différence qu'il y a entre la Torah et les mitzvot, c'est comme la différence qu'il peut y avoir entre ce qu'on réfléchit et ce qu'on fait. Pourquoi différencier entre ce que je réfléchis et ce que je fais? Alors il avait expliqué la chose suivante. Il avait dit que la réflexion a une qualité que l'action n'a pas, et l'action a une qualité que la réflexion n'a pas. J'explique. L'action a une qualité que la réflexion n'a pas, c'est que bien sûr, l'action c'est sur le terrain et ça prouve que tu t'impliques dans ce que tu fais. Une personne, il peut réfléchir toute la journée, mais tant qu'il n'a pas agi, il s'est pas impliqué. Donc l'action est une preuve. Voilà. L'action est une preuve de réalisation, c'est une preuve que je m'implique. Ça c'est number one. Mais d'un autre côté, il avait expliqué qu'il y a un défaut dans l'action, d'accord? Et on retrouve justement donc une qualité dans la réflexion. C'est quoi la qualité? C'est très simple. Il dit, quand tu agis, quand tu fais une action, l'action ne te change pas forcément, elle rentre pas en toi. L'action, elle t'entoure, elle t'enveloppe. J'ai fait une action, j'ai fait quelque chose de bien, mais moi, à l'intérieur, j'ai pas changé. Par contre, quand je réfléchis à quelque chose, ça me change intérieurement. à force de réfléchir à une idée, même si c'est une idée à laquelle je n'adhère pas, à force d'y réfléchir, je vais y adhérer. C'est comme ça. Et donc, la réflexion a une qualité que l'action n'a pas, et l'action a une qualité que la réflexion n'a pas. La qualité de la réflexion, c'est le fait que quand je réfléchis à quelque chose, je l'intègre, et donc je l'ingère, il est en moi. La qualité de l'action, c'est que quand j'agis, je montre que je prends la chose au sérieux et que je vais jusqu'à l'action. Alors, maintenant, on va essayer d'expliquer concrètement qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique, dans la vie de tous les jours. On a dit, il y a la Torah et il y a les mitzvot. Et les mitzvot sont comparés à des membres. Si on a dit que les mitzvot sont comparés à des membres, ça veut dire que, pour comprendre ce que c'est une mitzvah, il faut comprendre le mode de fonctionnement de nos membres. Parce que c'est les images, tout ça. On est d'accord. Mais si le Zohar a employé comme machal, comme exemple, les membres, c'est-à-dire que si je veux comprendre pourquoi il y a plusieurs mitzvot, il faut comprendre les membres. Alors c'est comme si je pose une question maintenant, voilà, Dan, je te pose une question. Pourquoi j'ai des mains et des pieds? Pourquoi j'ai pas que des mains?
Parce que chacun a une fonction.
Parce que chacun a une fonction. D'accord. Et pourquoi dans ma main ici, j'ai 5 doigts? Pourquoi j'ai pas 4 doigts?
Pour mieux prendre, pour mieux saisir.
Voilà, juste récemment, là, je lisais, il y avait un article, il y avait une famille, ils avaient tous 6 doigts. Ah. Et c'est des super joueurs de foot, parce qu'avec 6 doigts...
6 doigts?
De basket, pardon. Avec 6 doigts, non, c'était des goals. Ah. Il attrape, mais...
Ça aurait pu faire des pianistes aussi, étonnant.
Ah, bah oui, ça aurait pu faire un pianiste intéressant, ouais. Alors, pourquoi j'ai 5 doigts? Pourquoi j'ai pas 4 doigts? Pourquoi j'ai pas 4? Pourquoi j'ai pas un doigt? Si j'ai plusieurs membres, c'est que forcément...
Chacun
a une fonction. Maintenant, est-ce que moi je connais la fonction de chacun? Est-ce que par exemple je peux maintenant vous répondre quelle est la différence entre le pouce et l'index? À quoi sert le pouce, à quoi sert l'index? Pas forcément. Mais c'est pas parce que je suis pas capable de répondre à la question qu'il n'y a pas de réponse. Moi je connais peut-être pas la réponse parce que bon, je vis comme ça. D'accord? Mais il y a une réponse à la question. Si Dieu a créé le pouce, l'index, le majeur, c'est que chaque membre a une fonction. Pareil, si je vous demande pourquoi on a deux yeux, pourquoi on n'a pas un seul œil? Ah, il faut demander aux opticiens, ça.
Pour mieux tout voir, mon enfant.
Avec un œil.
Pourquoi on n'a pas un seul œil?
C'est ton boulot, ça. Les yeux, ça permet de voir le relief.
Ah, très bien. Voilà. Maintenant, une personne qui a deux yeux, il n'est pas forcément conscient qu'avec un œil, il n'aurait pas eu le relief. Il ne le sait pas.
S'il en ferme un, oui.
Et tu lui poses la question, tu lui dis, pourquoi tu as deux yeux? Il dit, j'en sais rien, je sais pas, c'est comme ça. Je lui dis, pourquoi? Un capteur, il voit pas. Dans ton téléphone, t'as un capteur, il voit très bien, non? Pourquoi il te faut deux capteurs à toi? Et tu lui réponds. Hein, il a dit le relief. Et le relief, il n'aurait pas pu être fait avec un œil?
Non.
C'est impossible?
Non.
Dieu pouvait pas.
Ah si, bien sûr que si.
Avec un seul œil, il n'a pas
les bandes, comment ils font les bandes?
Mais mon capteur de mon téléphone, là, il ne voit pas avec un œil?
Ils sont recomposés dans le cerveau.
Alors, donc, on a des réponses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi le Zohar prend l'exemple, un très bon exemple, l'exemple des membres? Parce que l'exemple des membres nous apprend quelque chose. Il nous apprend que chaque membre a une fonction. Et même si moi, je ne comprends pas, chaque membre a une fonction. De la même manière, il y a plusieurs mitzvot. Il y a 248 mitzvot. Chaque mitzvah est une fonction. Maintenant, si une personne va dire, moi je comprends pas pourquoi il faut mettre les titites. Je comprends pas. Les tefilines, d'accord, la mitzvah je comprends, mais les titites, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on lui répond? On lui dit, écoute, on va essayer de t'expliquer. Mais sache que quoi qu'il en soit, même si tu ne veux pas comprendre, tu veux pas comprendre, et pour toi ça sert à rien. C'est comme les membres. C'est pas parce que je comprends pas à quoi sert un membre qu'il ne sert à rien. Ça n'existe pas quelque chose qui sert à rien. C'est une erreur. Chaque chose dans le monde sert à quelque chose. Il y a une fameuse Mara qui raconte qu'une fois, David Ameler, il a vu, je crois que c'était une araignée. D'accord? Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, je comprends pas à quoi ça sert. Tout ça, il a dit. Et Dieu lui a dit, tu verras qu'un jour tu comprendras. Et vous connaissez l'histoire. C'est qu'un jour, quand il est en train de se sauver devant Saül, d'accord? Devant Shaoul, il est rentré dans une grotte. Et Hachem a fait un miracle, il a envoyé des araignées qui ont tissé une toile tout de suite et qui avaient un look un peu vieux. Et automatiquement, dès que les gardes sont passés devant, ils ont dit, c'est pas possible, avec une toile comme ça, il était pas là. Et là, quand David Amelech a vu ça, qu'est-ce qu'il dit le texte? Il a dit, maintenant j'ai compris qu'il n'y a rien dans le monde qui sert à rien. Comme ça, il dit. J'ai compris qu'il n'y a rien dans le monde qui ne sert à rien. Voilà. Donc la même chose. Ça n'existe pas une mitzvah qui sert, ça n'existe pas une mitzvah qui sert à rien du tout. Ok. Maintenant, je vais continuer, bonsoir. Maintenant, je vais continuer un peu plus loin. D'accord? On va continuer dans l'exemple des membres. Voilà. Donc, j'ai mes mains, Baruch Hashem, qui bougent. Vous me suivez? D'accord. J'ai mes narines qui respirent et j'ai mes yeux, qui vont cligner. Bon. Chaque membre a une fonction différente. On est d'accord?
Et complémentaires toutes.
Elles sont complémentaires, mais chaque membre a une fonction différente. Il n'y a pas de problème. Qui c'est qui donne l'énergie à ses membres?
Le cerveau.
Qui donne l'énergie à ses membres? Est-ce que si j'ai 248 membres, ça veut dire que j'ai 248 âmes?
Non.
Pas du tout. Combien d'âmes j'ai? J'ai un moteur. Et pourtant, ce moteur, il va s'adapter à chaque membre, et chaque membre, il va exprimer l'énergie de ce moteur différemment. Vous me suivez? Et après, chaque membre, il aura sa manière d'exprimer cette énergie. La main va exprimer l'énergie en bougeant comme ça. Les yeux, ils vont exprimer leur énergie en clignant et en regardant. Les narines en respirant, la bouche en parlant. Chaque membre, il va utiliser le même moteur. Tout le monde utilise le même moteur. C'est le moteur de la neshama, le moteur de l'âme, le moteur qui fait vivre tout ça. Mais chacun va l'exprimer différemment. C'est le même but qui est exprimé différemment. Et bien, on retrouve la même chose dans les mitzvot. Chaque mitzvah a sa fonction. Et chaque mitzvah est une manière différente d'exprimer la volonté de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 248 dieux? Non, il n'y en a qu'un seul. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 248 manières de servir Dieu? Non, il y a une seule manière en vérité. C'est de faire la Torah et les mitzvot. Seulement, la même manière que dans les membres, tous ces membres-là appartiennent à une personne et que c'est 248 façons, et bien de la même manière qu'on va expliquer, chaque membre a sa manière comment il va s'exprimer. Alors il dit comme ça, il va donner un exemple, il va dire, en fait, il y a une volonté générale, qui est la volonté de la neshama, la volonté du corps, et après il y a une volonté spécifique de chaque membre. Par exemple, si vous prenez ma main, voilà, on va prendre mon pouce. Quelle est la volonté de mon pouce maintenant? Vous savez que chaque membre, ça j'avais parlé avec un grand docteur dernièrement, il m'avait confirmé que, parce que je l'ai vu dans un mamar de Hassilut, et les docteurs le disent aujourd'hui, que chaque membre a une sorte d'autonomie. Chaque membre a une volonté. Donc, je vais prendre l'exemple de mon doigt. Quelle est la volonté de mon doigt maintenant?
Ah, ça dépend, soit d'appuyer.
Ce doigt qui est ici, quelle est sa volonté?
De faire du stop.
Quelle est sa volonté? Sa volonté, c'est de vivre, donc de pouvoir bouger. D'accord? D'accord, non, attraper sans détail. Je parle déjà du doigt.
Mais ils sont tous bougés, on bouge tout. Là,
très bien. Alors, quelle est la volonté de mon doigt? La volonté de mon doigt, c'est de bouger. Maintenant, il y a une volonté générale, comme vous avez dit, qui va dire, par exemple, je vais utiliser le fait que mon doigt bouge pour attraper ce verre. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Il y avait la volonté de mon doigt, qui est une volonté spécifique, que mon doigt il veut bouger, et il y a ma volonté à moi qui veut ce verre. On a marié les deux volontés, mon doigt a bougé, ma volonté principale était je veux ce verre, hop, mon doigt a cligné, hop, et c'est la machine, et j'ai gagné. D'accord? Comme ça, c'est la machine, non? Comme ça, elle attrape. Voilà.
Mais
on gagne pas tous les coups. Là, on a gagné. Là. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va montrer par là? On va montrer par là que chaque mitzvah est une manière différente de servir à Kadosh Baruch Hu, est une manière différente d'exprimer la volonté de Dieu, mais qu'en vérité, toutes les mitzvot font partie d'un but général qui est le but que Kadosh Baruch Hu il attend de nous, le but que Dieu il veut qu'on le serve. Mais après, dans les détails, ça va dépendre de beaucoup de choses. Alors, ici, il y a beaucoup d'exemples qu'on a dans le chassidou. Regardez. Imaginez, par exemple, qu'il y a ce verre qui est là. Voilà, le verre est ici. Et moi, je suis là. D'accord? Et j'ai envie de prendre ce verre. Ah, bien sûr, instinctivement, je vais le prendre. Mais pour aller prendre ce verre, qu'est-ce qu'il y a eu maintenant comme mouvement dans mon corps? Il y a eu beaucoup de mouvements. D'accord? D'abord, j'ai dû bouger mon pied. D'accord? Après, il y a une flexion. Vous m'avez vu. Après, j'ai bougé ma main. Après, j'ai serré mes doigts. Et après, je l'ai pris. Il y a eu plusieurs actions. C'est-à-dire, si tu veux décomposer ce qui vient de se passer ici, il y a eu beaucoup d'actions. Il y a eu une analyse de mon cerveau, il y a eu peut-être mes narines qui ont senti, il y a eu mes yeux qui ont vu. Il y a eu plein de membres qui ont fonctionné ensemble. Et des fois, pour arriver à un but, il faut faire fonctionner plusieurs dizaines de membres. Mais ça dérange personne. Et c'est pas pour autant que je vais dire, ah, s'il y a 248 membres, ça veut dire que c'est 248 membres distincts. Oui, bien sûr qu'ils sont distincts. Mais quand on les marie ensemble, eh ben, ils vont aller ensemble pour aller faire une mission pour un Kadosh Baruch. Enfin, là, c'était pour moi pour prendre le verre. Mais, en l'occurrence, dans les mitzvot, c'est pour aller servir un Kadosh Baruch. Donc là, on commence à comprendre un petit peu, je dis, pourquoi les mitzvot sont comparés à des membres. C'est pas que Dieu, il a des membres. C'était une image pour nous montrer comment, d'un côté, on a besoin 248 membres différents. C'est-à-dire qu'il y a 248 facettes comment servir un Kadosh Baruch Hu. Mais d'un autre côté, ils sont complémentaires et qu'on a besoin d'utiliser toutes les mitzvot et qu'ensemble, on arrive à obtenir un but. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il veut expliquer ici par les mitzvot. Et donc, évidemment, une personne, il va dire, oui, mais moi, j'ai fait une mitzvah, c'est très bien. C'est très bien de faire une mitzvah. Mais à quoi ça ressemble? C'est comme celui qui est là, qui doit aller prendre le verre, d'accord? Et qui va dire, oui, j'ai fait une action, je me suis baissé. Il dit, oui, mais tu t'es baissé, mais il y a plein de choses à faire encore. Il faut bouger, il faut avancer, il faut mettre la main. Avec une action, ça suffit pas. Ça veut dire que pour que les mitzvot soient effectives et qu'elles obtiennent le but, il faut marier les mitzvot, il faut faire un maximum de mitzvot. Et quand on fait toutes les mitzvot que Dieu me demande, là, à ce moment-là, je peux atteindre le but qu'Akadosh Baruch Hu attendait de moi. Alors, on va avancer un petit peu. D'abord, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici?
Non, juste une remarque.
Bon, je vais boire le verre quand même. Bon, quand tu as dit que le Zohar
distingue les mitzvot de la Torah, est-ce que les mitzvot ne sont pas plus ancrées dans une dimension purement individuelle et dans le champ de l'application, alors que la Torah, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, le mode d'emploi qui va te permettre de bien réfléchir, de bien intégrer tout ce que tu dois intégrer pour bien l'après l'appliquer.
Une bonne question.
Il y a un aller-retour, c'est pas que vertical, c'est vertical, c'est
une bonne question. On va voir dans la suite, ça c'est une bonne question. Je comprends ce que vous voulez dire. Il y a individuel.
Et puis, l'un, c'est le côté matériel, et l'autre, c'est le côté plus spirituel. Et les deux sont en relation.
On va voir cette notion-là, on va la voir à la fin de ce chapitre. Là, c'est une question intéressante, c'est une notion importante. Alors, dans les mots. Il y a d'autres questions ?
Il y a des membres qui ne fonctionnent plus.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des membres qui ne fonctionnent plus. Par exemple, on peut avoir une personne qui est malade, et non, comme il...
Je parle par rapport
au mitzvah. Ah oui, évidemment. On peut avoir une personne qui est malade, et comme il est malade, il a des membres qui ne fonctionnent plus. Ou bien, par exemple, une personne peut être allongée en train de dormir, et quand il dort, il y a des membres qui sont pas en fonction, qui fonctionnent peut-être, mais qui sont en veille. C'est la même chose. Quand on est en galoute, sur les 248 mitzvot, on a des membres qui sont en veille, ou des membres qui sont malades. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est mort? Non. On est en vie. C'est ça ce qui est intéressant. C'est dire qu'un juif qui ne fait pas les mitzvot est mort, ça serait comme si, qu'on dirait qu'une personne qui a un membre qui ne fonctionne pas, il est mort. Non, c'est faux. Donc c'est intéressant comme exemple, parce que l'exemple des membres nous montre que d'un côté, c'est vital, c'est important, mais d'un autre côté, c'est pas ce qui fait ma vie. Ça veut dire que sans un membre, on peut être encore en vie. Donc de la même manière, un juif qui ne fait pas les mitzvot reste toujours un juif. Mais il lui manque, il vit pas normalement. Il vit, mais pas normalement.
Alors dans la continuité de ce qu'a dit Amram, quelqu'un qui est par exemple qui est aveugle, qui est non-voyant, ou quelqu'un qui est fou, comment il peut faire dans ce cas-là?
Vous parlez physiquement ou là on parle pas physiquement là?
Non, mais ici et le
on n'est pas dans le physique. Le membre c'était juste un exemple qu'on a cité pour expliquer les mitzvot. C'est pas notre but de parler des membres physiques.
Ouais, mais l'être humain en lui-même, s'il lui manque quelque chose, s'il a,
mais il reste vivant.
Oui, mais il peut pas faire les mitzvot.
Ok, d'accord, y a pas de problème. Il lui manquera des mitzvot, je comprends. Il est malade, il est malade. Alors on va continuer un petit peu.
L'absence d'un membre, est-ce que ça nous donne l'absence d'une mitzvah?
Sa question. Ça dépend lesquels. Oui, on peut avoir des membres que quand on les enlève, par exemple une personne qui n'a pas de bras, elle peut même mettre des tefilines. Et s'il n'a pas de tête, comment il va faire? Il est mort s'il n'a pas de tête. Non.
Tu veux t'aider? Bon, si on n'a pas le... par exemple,
c'est une question que le rabbin il a posée à un enfant. Une fois, vous savez, à l'époque, dans les premières années, quand il y avait moins de monde, dès qu'un enfant venait dans mitzvah, le rabbin l'appelait dans son bureau, il lui faisait un petit questionnaire, etc. Bon, les enfants, ils aimaient ça, attention, ils se préparaient à ça. Et une fois, il y a un enfant comme ça, un jeune dans mitzvah qui arrive, alors le rabbin dit, qu'est-ce que t'as appris à l'Yeshiva? Ils ont appris le traité Mnachot. Bon, très bien, de quoi vous avez parlé? On a parlé des tefilines. Il dit, on a parlé des tefilines. Et il dit, qu'est-ce que vous avez appris? On a appris que même si une personne ne peut pas mettre les tefilines du bras, parce qu'il a un plat, quelque chose comme ça, quand même, il doit mettre les tefilines de la tête. Alors, Ravi lui pose la question, il lui dit, mais pourquoi là que Mara pose pas la question, et si une personne, il a pas de tête, est-ce qu'il met les tefilines du bras? Et l'enfant, il réfléchit, il dit, ouais, c'est vrai, c'est une bonne question, pourquoi là que Mara n'a pas posé ça? Après, le Ravi lui a dit comme enseignement, il lui a dit, quand tu étudies la Gemara, il faut essayer de t'imaginer les choses. C'est-à-dire, il faut quitter un peu la théorie. Quand on est dans la théorie, on peut imaginer qu'il n'y a pas de tête, mais il y a un bras. Mais quand on est dans la pratique, on se dit, mais non, c'est pas possible, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de tête.
En l'occurrence, c'est que moi, à part de ta tête, il y a deux têtes.
Oui, c'est autre chose. Alors, on va continuer un petit peu. Donc, ça veut dire quoi? Pour répondre à votre question, M. Benita, évidemment qu'une personne qui lui manque un membre peut lui manquer des mitzvot. Mais là, je ne parle pas des membres physiques, c'est pas de ça que je parle. D'accord? Là, je ne parle pas de membres physiques, je parle de membres spirituels. Je parle de membres spirituels, puisque un membre spirituel, c'est une mitzvah. Les mitzvot sont comparés à des membres. Et là, on commence à comprendre pourquoi il y a cet exemple-là, pourquoi c'est comparé à des membres. Alors, on va avancer un petit peu. Donc, chaque mitzvah a un but. Par exemple, si je vous demande les tefilines, à quoi ça sert?
Pour être en connexion avec...
Chaque mitzvah a un but. Le but des tefilines, Le but des téphilines, c'est de soumettre le cœur et l'esprit. Le but de la mezouza, c'est la protection. Chaque mitzvah a son but. Comme chaque membre a sa fonction, chaque mitzvah a son but. Et même quand je crois, quand je... C'est pas une mitzvah là qui parle.
Manger kasher, alors c'est quelle mitzvah, c'est quoi ?
Manger kasher, ça correspond à l'intestin. Ça correspond à l'intestin. Chaque membre, il correspond à une mitzvah. Il correspond à un sens. C'est sûr. Alors, les filles, chez mitzvot, en...
Excuse-moi. Je sais que ça n'a rien à voir, mais... Si c'est pas une mitzvah, le mitzvah qui parle.
Non, après, il y a des choses que, il y a des minagim qu'on a pris sur soi, qui sont des choses très importantes, qui sont obligatoires. Mais pour catégoriser comme une mitzvah, c'est particulier.
Il faut se écrire dans la Torah. Donc.
Exactement, il faut se écrire dans la Torah. Je te donne un exemple. Pour t'expliquer ce que ça veut dire, par exemple. Tu vois la peau qui a sur ma main là? Est-ce que c'est un membre?
Ça fait partie des...
Non, d'accord, mais est-ce que c'est un membre? Alors, il sert à rien?
Non, si, ça a une fonction.
Donc, il a une fonction. C'est pas un membre, mais ça sert à quelque chose. Donc c'est pas parce que c'est pas un membre que ça sert à rien. Pareil, il y a des minagim qu'on va rajouter, etc. C'est des choses importantes, mais qui sont pas des membres. D'accord. Les fiches à mitzvot en pnimiyut ratson aelyon vechavtzu amiti. Les mitzvot expriment la profondeur de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On va expliquer tout de suite ce que ça veut dire ici, ce qu'elle veut dire. D'accord. Amelubash bechol haolamot aelyonim vetartonim lechayotam. Alors c'est très intéressant ce qu'il dit ici. Ici, il parle de Pnimiyut Haratzon. Pnimiyut Haratzon, la profondeur de la volonté. Je vais vous donner un exemple qui est ramené souvent en Chassidut, pour illustrer qu'est-ce que ça veut dire la profondeur de la volonté. Pourquoi il y a une volonté qui n'est pas profonde? On donne un exemple très simple, que vous allez tout de suite vous identifier à cet exemple. Imaginez une personne qui se lance dans une affaire. D'accord? Je sais pas moi, vas-y, dans quoi il va se lancer comme affaire? Donnez-moi une idée.
Les bonbons.
D'accord. Les bonbons, très bien, allez. Il va se lancer dans une affaire de bonbons. Pourquoi il s'est lancé dans cette affaire?
Il aime les bonbons. Parce qu'il aime les bonbons.
Non, parce qu'il y croit.
D'accord. Pourquoi?
Parce qu'il y croit.
Parce qu'il sait que...
Ça veut dire, quand il va rentrer le soir chez lui à la maison, il se pose la question, pourquoi je travaille la journée dans les bonbons? Qu'est-ce qu'il se répond?
Pour faire plaisir aux gens.
Peut-être parce qu'il aime les bonbons, c'est vrai. D'accord, mais bon, pourquoi il travaille? D'accord, mais pourquoi il travaille?
L'argent.
Parce qu'il veut gagner sa vie. Et pourquoi il veut gagner sa vie?
Pour vivre.
Et pourquoi il veut vivre?
Pour manger. Il ne veut
pas mourir.
Hein?
On est là pour vivre.
Mais pourquoi?
Parce qu'on n'a pas le choix.
Hein?
Pour accomplir les mitzvot. Voilà.
Non, je me dis. Non, c'est pas la réponse que j'attendais.
Mais elle est bonne.
Hein? Alors pourquoi? Parce qu'il veut vivre. C'est l'instinct de survie.
Ouais,
maintenant, attendez, laisse-moi finir. Est-ce que ça veut dire que chaque matin, quand je vais me lever pour aller au boulot, je vais me dire, je vais au boulot pour vivre? Non. Je pense pas à ça. Quand je me lève le matin, je me dis, je vais au boulot parce qu'il faut travailler. Bon, peut-être parce que j'ai mon boulot aussi, peut-être, c'est possible. Mais j'y réfléchis pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je me lève le matin, quand je me dis, je vais aller au boulot, à quoi je pense? Je dis, oui, il faut que je prenne la voiture, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Je pense à des détails importants. Mais ces détails-là ne sont pas la raison pour laquelle je vais travailler. La vraie raison pour laquelle je vais travailler, je n'y pense peut-être presque jamais. Et vous savez, quand j'y pense, quand j'ai des dilemmes, quand par exemple ma femme me dit « tu rentres trop tard », je me dis « oui, je rentre trop tard, oui, mais le travail c'est important, etc. » Et là je me dis « mais attends, c'est vrai, pourquoi je vais bosser? Je vais bosser pour ma famille. Mais attends, ma famille, je ne les vois même pas, alors en quoi ça sert ?» Et là quand tu commences à avoir des dilemmes, là tu te remets en question. Mais si je ne me remets pas en question, j'y pense même pas, je n'ai rien à faire, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple? Il y a « pnimiyut haratzon, chitsoniyut haratzon ». Il y a la profondeur de la volonté. Et il y a le côté superficiel de la volonté. La profondeur de la volonté, c'est que je travaille pour vivre. Et que tout ce que je fais, c'est parce que j'ai un instinct de survie, je veux vivre. Ça, c'est la profondeur de la volonté. Mais, chitsoniyut haratzon, c'est quoi chitsoniyut haratzon? Ça veut dire l'extérieur de la volonté, le côté superficiel de la volonté. C'est tous les petits détails qui vont m'amener à ça. Très souvent, dans la vie, on se concentre sur tout ce qui est autour, sur tout ce qui est superficiel, et on ne se concentre pas sur la vraie raison pour laquelle on va travailler. Et bien, c'est exactement la même chose. Si je vous pose la question, pourquoi Dieu a créé le monde? J'aurai exactement les mêmes réponses. On trouvera des réponses superficielles. Il a créé le monde pour avoir des montagnes, pour avoir tout ce que tu peux. Tu peux balancer ce que tu veux. Tu peux raconter ce que tu veux. Et c'est des bonnes réponses, c'est pas faux. C'est comme si je veux dire, est-ce que je prends pas la voiture pour aller au travail? Est-ce que je gagne pas de l'argent? Est-ce que je rencontre pas du monde? Est-ce que je rencontre pas des clients? Est-ce que c'est pas pour être sociable? C'est vrai, c'est des réponses qui sont vraies. Mais c'était pas la vraie raison pour laquelle j'allais travailler. La vraie raison pour laquelle j'allais travailler, c'est parce qu'avec l'argent que je vais gagner, je vais vivre. D'accord? Ben, de la même manière. Chez Akadosh Baruch Hu, il y a le côté superficiel de la volonté. C'est tout ce qui est autour de nous. Toutes les créatures. Et il y a la profondeur de sa volonté. Ça veut dire, derrière tout ça, qu'est-ce qu'il attend de nous dans la création de ce monde? Ça, c'est les mitzvot. Quand je fais une mitzvah, je fais la profondeur de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire, j'accomplis la chose que Dieu recherchait dans laquelle, pour laquelle il a créé le monde. Maintenant, tu me dis, oui, mais dans ce cas-là, il aurait dû créer que les mitzvot. Non, c'est faux. C'est comme si je te disais, dans ce cas-là, on aurait dû que vivre. Mais non, pour vivre, il faut travailler. Pour travailler, et on va gagner de l'argent. Il y a des détails annexes. C'est pas parce qu'il y a des détails annexes qu'il n'y a pas un but principal. Il y a plusieurs buts secondaires, mais il y a un but principal. Le but principal de la Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est les mitzvot. Et ça, je reviendrai avec ça sur une idée qu'on a expliquée dans le chapitre 4. Très rapidement, mais là, on va la développer plus longuement. Si une personne va dire, par exemple, il va dire, j'ai pas envie qu'on m'impose comment je dois servir Dieu.
Ah oui, on en avait parlé de ça.
Pourquoi on m'impose? Prends un mode d'emploi. Prends, on me dit, pour servir Dieu, il faut mettre des lanières sur ton bras, il faut faire ci, il faut faire ça. Laissez-moi tranquille. Je crois en Dieu. Ne vous inquiétez pas, je crois en Dieu. Mais laissez-moi parler à Dieu comme je pense. Moi, j'ai envie de servir Dieu comme je veux. Moi, par exemple, je pense que je vais faire du bénévolat, je sais pas, ça me parle mieux. Ça m'intéresse pas de mettre des lanières et passer une heure à parler. Ça m'intéresse pas. Alors, c'est une mitzvah, mais ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on répond à une personne comme ça? On lui répond la chose suivante. On lui dit, si tu étais capable d'être dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu pour comprendre quel est son but, là tu aurais pu dire, moi je pense que pour atteindre ce but, au lieu de passer par là, on peut passer par là. Ah, pas de problème. D'accord? Votre femme, elle vous dit par exemple, elle vous dit, si vous arrivez à comprendre, elle vous dit, il faut aller de là à là et on passe par là. D'accord? Vous pouvez dire, je pense qu'on peut passer par là. Parce que tu comprends où elle va arriver. Si tu arrives à comprendre. Mais quand tu comprends pas, tu peux pas dire, peut-être on peut passer par là, parce que tu sais pas où elle va arriver. Imaginez qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu. Pour se permettre de dire, j'ai pas besoin des mitzvot, je peux communiquer avec Dieu comme je veux, d'accord? Ça veut dire que je prétends connaître le but d'Akadosh Baruch Hu et la manière de faire les choses. Or, je ne la connais pas. Je peux connaître des buts annexes, mais le but principal, je ne le connais pas. Et tant que tu connais pas le but principal, tu es incapable de dire qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins important. Si par exemple, on va dire maintenant, voilà, et on te dit par exemple que arrive le jour du Shabbat, et une personne, il n'a pas de quoi manger. Bon, enfin, en tout cas, il a des problèmes de parnassa. Alors, il a un dilemme. Soit il fait Shabbat, soit il va bosser. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, j'ai compris, bien sûr que la lacha, c'est qu'il doit faire Shabbat. Mais si le bonhomme, on le laisse décider tout seul, peut-être qu'est-ce qu'il aurait dit?
Il
aurait dit, non, mais bon, pas de quoi manger, c'est un grand mot, il n'a pas de quoi payer les vacances aussi. Alors, alors qu'est-ce qu'il dit? Il va dire, je décide tout seul. On dit, non, tu décides pas tout seul. Parce que, tu peux pas décider tout seul parce que moi, je connais que les buts annexes. Mais le vrai but, pourquoi ça fonctionne comme ça, je ne le connais pas. Ça, il n'y a que Dieu qui le connaît. Et Dieu, il me dit la chose suivante. Il me dit, sans que tu comprennes comment ça fonctionne, ce que je te dis, c'est que si tu fais une mitzvah, tu accomplis mon but. Maintenant, que tu comprennes ou tu ne comprennes pas, ça ne change rien. Ce qu'on sait, d'accord, c'est que, si tu le feras, ça marchera. Et on donne un exemple, en chassidout, un exemple très intéressant. Imaginez, par exemple, mon cerveau, il donne l'instruction à ma main, je reprends l'exemple de la main, hein. D'accord? Il donne l'instruction à ma main, donc de saisir, donc de fléchir mes doigts et d'attraper. Le cerveau n'explique pas à la main ce qui se passe. Il lui donne une instruction de fléchir les doigts. Si maintenant les doigts posent la question au cerveau, il lui dit, mais pourquoi je donne de fléchir là? Ils sont incapables de comprendre. D'accord? En tout cas, peut-être qu'ils vont pas comprendre. Est-ce que parce qu'ils ne le comprennent pas, c'est pour ça qu'ils ne le feront pas? Non, ils le feront. Pourquoi? Parce que c'est expliqué en chassidoute qu'un membre qui est normalement conçu, c'est un membre qui sait être soumis à celui qui est au-dessus de lui. D'ailleurs, un membre qui n'écoute plus le cerveau est un membre qui est malade. On est d'accord? Pour que ça fonctionne normalement, comment ça se passe? D'accord? C'est qu'il y a un cerveau qui donne des instructions et les membres écoutent, même qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas. Alors, il y a des choses qu'ils comprennent. Par exemple, quand c'est chaud, un membre peut ressentir certaines choses. Mais il y a des choses qu'un membre ne ressent pas, il comprend pas. Eh ben, quand la base d'un membre en bonne santé, c'est quoi? C'est que quand le cerveau me donne une instruction, j'écoute. Eh ben, c'est la même chose. C'est ça, les mitzvot. Les mitzvot, c'est Dieu qui est le cerveau. Dieu qui est le cerveau, il m'a donné des instructions. Il m'a dit, tu fais mitzvah numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Oui, mais je comprends pas. Ça change rien que tu comprends pas. Tu dois faire ce qu'on te demande quand on te demande de le faire. Peut-être qu'un jour, tu auras une vue d'ensemble, tu comprendras. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, je pense que l'exemple du membre est un exemple excellent. Parce que cet exemple nous montre parfaitement comment d'un côté, c'est moi qui agis, mais d'un autre côté, le membre ne comprend pas forcément l'enjeu de ce qui se passe. De la même manière, qui fait la mitzvah? C'est moi. Mais est-ce que je comprends pourquoi je dois la faire? Pas forcément. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que la chose soit faite. Une fois que la chose sera faite, après, peut-être on comprendra plus, peut-être on comprendra moins.
Il y a des membres qui n'ont pas besoin, qui ne réagissent pas au cerveau.
Et c'est un problème.
Non.
C'est une maladie, ça.
Non.
le cœur. C'est pas le cerveau qui le fait fonctionner.
Alors, le cerveau, c'est un système.
Est-ce que je pas la volonté. Est-ce que je pourrais par mon cerveau.
Mais moi, c'est moi, je suis dans mon cerveau, il y a des systèmes autonomes.
C'est sûr, ils sont connectés.
Non, mais le cœur, le
cerveau.
Attends, il y a des gens qui ont des trucs cérébraux, le cerveau ne fonctionne plus et le cœur, il continue.
Et il n'est pas mort, le cerveau.
Il est mort cérébral.
Bon, c'est mais c'est pas géré.
La partie qui commande le système autonome, elle n'est pas morte.
En tout cas, ce qui est clair, c'est que de toutes les façons, on avait expliqué dans le chapitre 9 qu'il y a deux quartiers généraux dans le corps. Il y a le quartier général du cerveau, le quartier général du cœur. Mais de manière générale, un membre ne comprend pas forcément pourquoi on lui demande de faire ce qu'il fait. Et pourtant, il le fait. Ok ?
On peut prolonger la question
de
Abraham et dire si le cœur, en l'occurrence, là, il a posé le cœur, il ne comprend pas aussi pourquoi il bat.
Oui, il ne comprend pas. Est-ce que pourtant il ne le fait pas ? Il le fait. Pourquoi il le fait ? Parce que la base d'un membre en bonne santé, c'est d'accepter que quand tu as quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui donne une instruction, et que lui, il a une vue d'ensemble, il faut l'écouter. Même si tu ne comprends pas. C'est pas à moi de comprendre maintenant pourquoi et comment. Ça, c'est la base. Le cerveau, c'est Akadosh Baruch Hu.
Je suis pas sûr que le cerveau soit pas connecté, enfin le cœur soit pas connecté au cerveau.
Il est.
En permanence.
Non, ils sont connectés.
Mais le cœur,
c'est sûr.
Et les fonctions de chaque chose, de chaque
chose.
Et sur ça, il est braqué.
Non, on n'a pas dit ça.
C'est ça.
Non, c'est pas ce que je dis.
Mais oui, puisque je. Voilà, il faut pas que j'interroge mon droit ou mon cerveau parce que
je. J'ai pas dit, il faut pas.
Non.
C'est pas ce que j'ai dit.
Oui, mais combien.
Non, attendez. Écoutez. J'ai pas dit que je ne pourrais pas comprendre. J'ai dit, j'ai pas besoin de comprendre. Le doigt n'a pas besoin de comprendre pourquoi il doit fléchir pour le faire. Peut-être qu'un jour il comprendra.
Mais si je me reporte à la mitzvah, je dis simplement, dans la hassidut du sortant, on a tout le temps expliqué le pourquoi et le comment de chaque
chose. On va expliquer.
Et là, apparemment,
on ne dit pas qu'il n'y a pas d'explication. On dit, j'ai pas besoin de connaître l'explication pour le faire. Si je connais l'explication, c'est encore mieux. C'est sûr.
Ça veut dire dans les prochains chapitres, on va la connaître.
Oui, sur vos questions, on va développer. C'est pas un problème, ça. Mais l'exemple des membres, c'est pour nous expliquer plusieurs choses. Donc, rabotaille. Pour résumer, qu'est-ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'on apprend des membres? Plusieurs éléments. D'abord, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a plusieurs membres distincts. Et que s'il y a plusieurs membres distincts, c'est-à-dire que forcément, chaque membre a sa fonction. De la même manière, si on a 248 mitzvot positives, c'est que chaque mitzvah a sa fonction. Et donc, chaque mitzvah est indispensable. Il n'y a aucune mitzvah qui est là par hasard. Première chose qu'on apprend des membres.
Mais tu parles plus des mitzvot positives?
Oui, positives. Négatives, c'est autre chose. On va parler après de négatives.
On n'est pas dans le même mode de fonctionnement.
Non, autre chose. Négatives, c'est autre chose. Là, on parle des mitzvot positives. Les mitzvot positives, le Zohar les a comparées aux 248 membres du roi. Pourquoi c'est comparé aux 248 membres de Dieu? Parce que les membres, on a expliqué, s'il y a plusieurs membres, c'est que chaque membre a sa fonction et il n'y a aucun membre qui est en trop. Donc, de la même manière, les mitzvot, chacune est obligatoire, chacune est nécessaire. Premièrement. Deuxièmement, ce qu'on a expliqué, c'est que chaque membre a une volonté propre, mais que, bien qu'il ait une volonté propre, il sait être soumis à un autre membre qui est au-dessus de lui, qui a une volonté plus générale. Vous savez, c'est très hiérarchique dans le corps. Donc, de la même manière par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport au mitzvot, quand Dieu me donne une mitzvah à faire, le cerveau me dit, maintenant, il faut que tu mettes le tefillin. Donc, le tefillin, c'est un des membres. Même si moi, je dis, je comprends pas, je le fais quand même. J'ai pas besoin de le comprendre pour que ça fonctionne. Le doigt n'a pas besoin de comprendre pourquoi il doit fléchir pour que ça marche. Même s'il comprend pas, s'il a fléchi le doigt et qu'il a attrapé, ça a marché, c'est fini. S'il a compris, c'est encore mieux. Mais c'est pas une condition sine qua non. Ça veut dire, en d'autres termes, une personne qui dit, je ne fais pas la mitzvah tant que je l'ai pas comprise, on lui dit, t'as rien compris. C'est comme le doigt qui dirait, je ne fléchirai pas mon doigt tant que j'ai pas compris pourquoi je dois le faire. Ça n'a rien à voir. Fais ce qu'on te demande de faire. Un jour, tu comprendras, peut-être oui, peut-être non. Mais ça ne changera rien. Ce qui compte, c'est que la chose soit faite. Et la chose sera faite. Que je le comprenne ou que je le comprenne pas. Donc, voilà la deuxième raison pour laquelle on a comparé ça aux membres. Mais je pense qu'il y a aussi une autre raison pour laquelle on a comparé ça aux membres qu'on va développer. C'est quoi? C'est que le membre a une volonté propre. Et pourtant, il sait être soumis. Et là, je vais expliquer. De la même manière, chacun de nous, on a notre manière de voir les choses. Et c'est pas une contradiction. C'est pas parce que j'ai ma manière de voir les choses que c'est en contradiction avec la manière de voir les choses de Dieu. Tant que je sais que j'ai ma manière de voir les choses, mais que dès que je suis devant une mitzvah, j'écoute ce que Dieu va dire, il n'y a pas de problème, c'est comme le membre. Le membre, il a sa nature, dès que le cerveau lui donne une instruction, eh ben, il écoute. C'est pas une contradiction. Quand le cerveau lui donne une instruction, il fait ce qu'on lui demande. Quand il donne une instruction, le membre a sa volonté, il a sa nature, et il se laisse couler. Ça, c'est troisième chose. Quatrième chose qu'on a expliqué aussi, et après on va avancer tout ça dans les mots, c'est d'expliquer qu'il y a la différence entre la vraie volonté et les volontés annexes, comme l'exemple du business. Donc, de la même manière, qu'est-ce qu'on a expliqué? Il y a les volontés annexes de Dieu quand il a créé le monde, c'est tout ce qu'il a créé autour, tout, la nature, etc., tout ça. Il a créé, par exemple, des goyims, il a créé des animaux, il a créé des astres, il a créé des tas de choses. D'accord? Et quand on dit pourquoi le monde a été créé, Bereshit, c'est quoi Bereshit? Il a créé le monde pour Israël. Je dis, mais quoi il a créé le monde pour Israël? Tu veux dire que tous les aspects, ils servent à rien? Je te dis non. J'ai écrit clairement. D'accord? Bereshit. Dieu, il a créé le monde pour Israël. Pour la Torah, pour Israël. Oui? Maintenant. Alors, oui. Alors maintenant, justement, seulement, il faut bien lire ce Rashi. On n'est pas en train de dire que les autres ne servent à rien. D'accord? On n'est pas en train de dire on est les meilleurs, les autres, ils valent rien du tout. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que, il y a pnimiyu taratson, chitsuniyu taratson. Il y a ce qui sont des volontés annexes dans la création du monde, et il y a ce qui est la volonté principale. La volonté principale de Dieu, c'est-à-dire la raison principale pour laquelle il a créé le monde, comme moi, ma volonté pour laquelle je travaille, c'est pour vivre, et ben, la volonté de Dieu pour laquelle il a créé le monde, c'est qu'un juif, il fasse une mitzvah. Quand je fais une mitzvah, j'accomplis la volonté pour laquelle Dieu a créé le monde. C'est ce qu'on appelle Pnimiyut Haratzon. Voilà pourquoi, dans le Zohar, comme on va expliquer tout de suite, les mitzvot sont appelés la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Volonté. Parce que, en faisant une mitzvah, j'accomplis la volonté de Dieu. Maintenant, attention. J'ai un autre point sur lequel je vais m'arrêter. Et ça, il va pas trop s'arrêter ici, mais je vais m'arrêter un petit peu. La volonté. On va s'arrêter un peu sur la volonté. C'est un peu théologique aujourd'hui, mais bon, c'est intéressant. Alors, la volonté, c'est quoi la volonté? Est-ce que toute volonté peut s'expliquer? Qu'est-ce que vous pensez, M. Benita? Une question pour vous.
Non, non, évidemment, bien sûr que non. Il y a certaines volontés qu'on ne peut pas expliquer, qui viennent spontanément, et voilà.
D'accord, mais est-ce que tout s'explique? Il y a des volontés qui s'expliquent.
Certaines, oui.
D'accord. Est-ce que, par exemple, M. Benita, est-ce que vous aimez le café?
Des volontés.
Hein? Oui, attendez. Pourquoi?
Vous aimez le café?
Parce que j'ai goûté, puis ça m'a plu.
D'accord. Est-ce que tout s'explique? Alors, on explique comme ça en Chassidut. On explique qu'une volonté ne s'explique pas forcément. Et donc, de la même manière...
Une volonté n'est pas un désir.
Oui, mais une volonté ne s'exprime pas forcément. Je donne un exemple. Un exemple qu'on ramène en Chassidut, pour expliquer, pour illustrer ça. Enfin, je vais l'adapter un peu l'exemple. Imaginez, par exemple, que votre femme est enceinte. Elle est, je sais pas, 7e mois de grossesse, comme ça. 3h du matin, elle vous réveille, elle te dit, j'ai envie d'un... Elle a de quoi, elle a envie? J'ai envie d'un fraisier.
Ah.
D'accord? Qu'est-ce que tu lui dis?
Demain.
D'accord. Et vous savez que c'est une sacana de ne pas lui donner ce qu'elle a besoin. Bon, on le sait. D'accord. Alors attendez. On va aller en catastrophe. On va lui trouver. D'accord? On va lui trouver une boulangerie qui est ouverte à cette heure-ci, qui est en train de préparer un gâteau. On arrive à la boulangerie. Il dit, écoute, j'ai pas de fraisier. Mais j'ai un autre gâteau qui est aussi très bon. Quand je vois ce gâteau, je dis, ouais, en plus, ma femme, souvent, elle prend ce gâteau-là, donc certainement, elle l'aimera. Je prends le gâteau, j'arrive à la maison. J'ai dit, écoute, j'ai pas trouvé de fraisier, mais j'ai trouvé un meilleur gâteau qui coûte encore plus cher et qui est meilleur, tu préfères en général. Qu'est-ce qu'elle va dire, ma femme?
J'en veux pas.
Elle veut pas.
Ah, pourquoi?
J'avais envie.
Parce que c'était sa volonté.
Mais pourquoi?
C'était sa volonté.
Alors, ça, c'est un exemple qu'on ramène dans Chassidut pour expliquer que pas toutes les volontés s'expliquent. Quand c'est une volonté qui est explicable, alors s'il manque un détail de ma volonté, c'est pas grave, ça me dérange pas, parce que je sais que globalement, j'ai eu ce que je demandais. Mais quand c'est une vraie volonté, s'il te manque un détail de ce que tu voulais, t'as pas eu ta volonté, c'est binaire. T'as rien du tout. Et là, je vous amène un exemple que donne le Zohar, le Midrash, pardon. Le Midrash donne un exemple. Il dit, il y avait une fois un roi qui a demandé est-ce qu'on lui fasse une maison. Un palais. Maintenant, le roi, il avait une idée, comment il voulait que ce soit son palais. Donc, il a appelé un architecte et il lui a expliqué. Il lui a dit, voilà, tu vas me faire tant de chambres et les chambres avec telle couleur, en détail. Bon. Le projet a pris plusieurs années, et le roi, il dit, je rentre pas tant que c'est pas terminé, tu vois, c'est la star. Donc il attend que l'architecte, qui est un pro, termine, et quand le roi y rentre, vraiment, c'est un palais magnifique, comme raconte le Midrash, dès qu'il rentre, il rentre dans une pièce, et il dit, c'est pas la couleur que j'ai demandé. Il est prêt à mettre à mort l'architecte pour ça. Alors qu'est-ce que dit le Midrash?
C'est tôt.
Attendez. Le Midrash, il pose la question suivante, il dit, mais attendez, je comprends pas. Il dit, mais la maison est très belle. Elle est peut-être encore plus belle que ce que le roi avait imaginé.
Mais ce n'est pas la volonté du roi.
Et pourtant, il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Parce qu'il avait une volonté. Et une vraie volonté, c'est binaire. C'est pas, on peut pas accomplir une volonté à 99%. Une volonté, c'est binaire. Soit tu m'as fait ce que je voulais, soit tu n'as pas fait ce que je voulais. Et ben, c'est la même chose. Les mitzvot, pourquoi on appelle les mitzvot un ratson, une volonté? Parce que c'est binaire. Je peux pas dire, attends, je vais faire la mitzvah, mais je vais adapter un petit peu. Je vais aller Shabbat et la choule en voiture. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait 99% de la volonté de Dieu.
Ça m'intéresse.
D'accord? Ça m'intéresse. Ben voilà. Tu dis, je fais tout mon Shabbat parfait, 99,9, mais juste un petit détail, j'ai pris la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Un détail. Tu vas dire, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Et ben, qu'est-ce qu'on te répond? On te dit, c'est comme la volonté. Dans la volonté, s'il manque un détail, c'est pas qu'il manque un détail et donc on a fait 99%. Tu as zéro. Si tu n'as pas fait exactement ce qu'on t'a demandé, la volonté n'a pas été accomplie, donc c'est zéro. Et donc ça, c'est une autre raison pour laquelle les mitzvot, à part d'être comparé à des membres, c'est aussi comparé à la volonté. Si tu ne fais pas les choses exactement comme Dieu l'a imaginé, tu n'as pas fait la mitzvah. On ne peut pas adapter les mitzvot. Quand on commence à vouloir adapter une mitzvah, on n'est plus dans la volonté de Dieu, on est dans l'intellect. Et là, maintenant, avec ça, on arrive à une grande différence entre l'intellect et les mitzvot. C'est que dans l'intellect, on peut discuter. On peut dire, bon, il y a 15 détails, si j'en ai 14, c'est pas mal. Ça passe. Mais quand c'est une volonté, s'il manque un détail, ça passe pas.
C'est
zéro. C'est recalé. Et ben c'est ça, une mitzvah. Quand Dieu te dit la mitzvah, tu dois la faire comme ça, et si tu fais pas ça, même Bediavad, c'est pas kasher, tu dis, mais j'ai fait 99%, il n'y a pas. Il dit, un bonhomme, il a fait Shabbat, d'accord? Il a fait, au lieu de faire 25 heures, il a fait 24 heures et 59 minutes.
C'est pas tel béchiche.
D'accord, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, la minute que tu as profané Shabbat, c'était un chiloul Shabbat. Tu dis, mais attends, j'ai fait 99,9%, j'ai profané Shabbat 5 secondes. Une seconde j'ai profané, qu'est-ce que c'est une seconde pour être pour toi, Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on lui répond? On dit, la seconde que tu as profané, tu n'as pas accompli la volonté de Kadosh Baruch Hu. Parce qu'une volonté, c'est binaire. Soit tu l'as, ok, le reste, il a fait deux mitzvot, il n'y a pas de problème. Mais cette seconde-là, il a profané Shabbat.
Mais donc ça marche quand même dans la volonté de Dieu, c'est pas un avéra, ça enlève la volonté de Dieu.
La volonté de Dieu, c'est que chaque seconde, je fasse sa volonté. Si une seconde, j'ai pas fait sa volonté, pendant cette seconde, on va pas dire qu'on fait une masse, et on dit, bon, dans la masse, ça passe.
Mais ça enlève pas toute la masse, quand même, ça que je veux dire.
J'ai pas dit que ça enlève toute la masse. Mais je dis, à l'instant où il a fait l'avéra, c'était une avéra à 100%.
Voilà.
On est d'accord. Alors quand c'est quelque chose qui s'explique, on peut dire, bon, ça va, et le bonhomme, il a fait 99,9, tu vas pas le prendre la tête pour un petit détail. Et là, c'est pas un détail, c'est une volonté. Volonté, tu ne l'as pas, et ben tu l'as pas. Il manque un détail, tu l'as pas, c'est terminé. D'accord? On va continuer. Velachen. Je vais accélérer un peu, hein, parce qu'on a, j'ai fait pas mal à l'oral. Alors, dans les mots, il dit, donc on va reprendre à les fiches à mitzvot.
Voilà. D'accord, troisième ligne pour moi, quatrième ligne.
282. On est à la page 282 au milieu. Voilà. On va accélérer un petit peu. Les fiches à mitzvot, en ptimiyut, ratson, en vravtsu amiti. Car les mitzvot sont la profondeur, donc la vraie volonté d'Akadosh Baruch, vravtsu amiti. D'accord? Comme il dit ici. Ameloubash, Bechol, Haolamot, Elionim, Vetartonim, Lechayotam. Quelle est la vraie raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu fait vivre tous les mondes, toutes les sphères, le Gan Eden, tout? D'accord? Quelle est la vraie raison? C'est pour qu'il y ait un petit juif qui habite dans le monde ici-bas, qui ferait une mitzvah. Ça veut dire que quand Dieu se pose la question, pourquoi j'ai créé le Gan Eden? Qu'est-ce qu'il se répond? Il se dit parce qu'il y a un juif en bas qui va faire une mitzvah. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai créé tout le reste, tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour, c'est annexe.
Qui confiance
en nous, hein. Ah bah oui. Qui kol chayutam veshifram talouy b'maaseh mitzvot shel etartonim kanuda. Alors là, on pousse encore plus.
Si on comprend ce que tu nous dis, on est grave dans la merde.
Grave. Tu vas voir. Je répéterai pas le mot que t'as dit, mais grave. Ouais. Alors, on va continuer. Tu vas voir, c'est plus fort. Il dit qui kol chayutam veshifram talouy b'maaseh mitzvot shel etartonim kanuda. Car toute l'énergie et la vitalité de toutes les sphères célestes, de tout ce qui existe dans le monde, dépend des mitzvot que vont faire les juifs. Quand on vous dit, par exemple, que des mitzvot qu'on va faire va dépendre le jugement de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'ils ont fait les goyim? Pourquoi? Je donne un exemple. Rosh Hashanah, on me dit qu'on va me juger sur les mitzvot et l'avérot que j'ai fait. Bon, imaginons que les juifs, ils ont fait des avérot. En quoi le monde doit être puni à cause de ça? On dit que le monde est jugé, et que Hayom Arat Olam, Dieu y décide, est-ce qu'il va laisser le monde, est-ce qu'il laisse pas le monde? Mais quel rapport le monde maintenant? Il juge les juifs. Quelle est la réponse? Étant donné que Rosh Hashanah, c'est un jour de bilan, quand tu fais un bilan et que tu te rends compte que la raison principale pour laquelle tu as fait ton affaire, eh ben, elle n'est pas là. Eh ben, ça remet tout en cause. Tout. Maintenant, il y a beaucoup de détails dans ton affaire. Tu as une boutique, tu as des clients, tu as des étalages, tu as des produits. Mais ça, c'est annexe. Mais quand le but n'est pas là, eh ben, on arrête tout. Ça veut dire que toute la raison pour laquelle tout a été écrit autour de nous, c'est pour qu'un juif fasse une mitzvah. Et même le Gan Eden, et même tout ce qui est autour, leur énergie, leur vitalité, dépend des mitzvot que vont faire ceux qui sont en bas. Venimtsa, ça veut dire, Shema Aseh Mitzvot V'Kiyuman, ou Levush Afnimi L'Pitimiyut Ratzon Elyon. En d'autres termes, dans des termes de Kabbalah, ça veut dire que l'action des mitzvot est un vêtement, est une expression de la vraie volonté de Dieu. Que je le comprenne ou que je ne le comprenne pas, ça ne change rien. Quand je fais une mitzvah, je fais quelque chose que personne n'est capable de faire, à part un juif. Même au Gan Eden, ils ne sont pas capables de le faire. Ils peuvent être que spectateurs. Je dis, maintenant, au Gan Eden, ils utilisent la Torah, font tout ce que tu veux. Oui, ça ne change pas. Une mitzvah, ils ne peuvent pas la faire. Or, la mitzvah, c'est le but principal. Et si tu n'as pas le but principal, tu n'as rien. C'est ce qu'on a expliqué ici.
Et un ange qui fait
la chose. Un ange, c'est annexe. Tout est annexe.
Annexe. Ah voilà, Gabriel.
Qu'on a plus tout ce qu'il y a à part. Alors, je répète, pour être clair. Tout ce qui est créé dans le monde et dans tout ce qui entoure, depuis Olama Tzilut, les anges, les Neshamot, tout ce que tu veux, d'accord. Tout ce qui a été créé à part, à part les juifs, pour les musées qu'ils font, c'est de l'annexe.
C'est du décor. Des figurants.
Tu peux dire aussi des figurants, mais j'ai pas dit ça.
Tu l'as pas dit.
Quand par exemple, je te donne un exemple. Le bonhomme qui a sa boutique. D'accord? Le but de la boutique, c'est pour gagner de l'argent, pour grâce à ça, vivre. Tu peux pas dire que les billets, c'est annexe. Tu peux pas dire que les produits, c'est annexe. Tu peux pas dire que les clients, c'est pas annexe, tout ça. C'est le travail. Mais c'est pas la raison pour laquelle il travaille. C'est annexe.
Les moyens,
c'est un moyen.
Les instruments.
D'accord. La vraie raison, c'est parce qu'il veut vivre.
La finalité. C'est-à-dire que l'homme a plus d'importance que l'ange par rapport au mitzvot.
Évidemment.
C'est ce que tu es en train de dire.
Attention. Je veux m'arrêter tout de suite. Je n'ai pas parlé d'importance, pas d'importance. C'est pas ce que j'ai dit.
Non, mais tu as dit qu'il y avait une hiérarchie dans les mitzvot.
Non, il y a un CDR, il y a un programme dans le monde, et ce programme veut. Que qui c'est qui peut accomplir la volonté de Dieu, c'est que les hommes.
Bah, des hommes, donc c'est pour ça.
Ça veut dire que même les anges, ils peuvent être que spectateurs.
Bah, c'est ça.
Ils nous regardent, ils disent.
On a plus
d'importance. Ils nous regardent dedans, ils disent, mais regarde, fais ça. Mais il peut rien faire à ta place. C'est-à-dire, s'il fait pas, ils sont dégoûtés en haut.
Donc, c'est les spectateurs. Ça veut dire qu'ils
donc,
sont
on a plus d'importance
aux mitzvot.
Aux yeux d'Hachem, plus que les anges.
Il n'y a que les hommes.
Ils se soumettent mitzvot.
Parce que tout a été fait pour nous, pour qu'on n'a plus les mitzvot.
C'est contradictoire parce que vous dites que les anges.
C'est pour ça,
ils ne peuvent pas faire de mitzvot.
Donc, on a plus d'importance aux yeux d'Hachem.
Ils ne peuvent pas faire la volonté de Dieu. Ils font la volonté.
Oui, ils font la volonté de Dieu, mais ce n'est pas la volonté principale.
Vous avez dit, on n'est pas dans la mouise, là.
C'est une volonté annexe.
Voilà. Mal le prendre.
La volonté principale, c'est que tout est mis en œuvre pour qu'un juif fasse une mitzvah. Dès qu'il a fait la mitzvah, Dieu il a gagné. Donc, vous comprenez, ça explique beaucoup de choses. Ça explique, par exemple, pourquoi, dans un mouvement Chabad, on va dire, par exemple, tu vas voir un juif dans la rue, qui est très loin, tu lui dis, mets tes tefilines. Il y a des gens qui critiquent, ils disent, mais attends, explique-lui d'abord, premier les tefilines.
Il met des amendes.
D'accord? Oui, c'est vrai, en Israël. Ouais. Alors, explique-lui. Alors, il y a des gens qui vont critiquer. Ils vont dire, mais. Juste alors. Bon, c'est un cas particulier, c'est un cas bon. Alors, il y a eu. Je t'arrête de dire. Imaginez, tu m'as oublié du coup ce que je voulais dire. Oui. Tu vas prendre quelqu'un dans la rue, tu vas lui dire, viens mettre tes tefilines. Il y a des gens qui vont critiquer. D'accord? Qui vont dire, mais attends, je comprends pas. Ils vont dire, pourquoi tu mets les tefilines comme ça à quelqu'un? Alors que tu lui fais, il va les mettre parce que tu lui as pris la tête, parce que tu lui as cassé les pieds, parce qu'il veut te faire plaisir, j'en sais rien. Explique-lui d'abord les tefilines, l'importance, la gravité, etc. Et peut-être qu'après, avec le temps, il va comprendre, et là, il fera vraiment de bon cœur. Quelle est la réponse?
T'as pas le temps, tu les deux là, tu non,
c'est pas, faire c'est, la c'est, c'est même pas une question de temps. C'est même pas une question de temps. C'est un gamin, le bonhomme, encore.
La réponse
est très simple. C'est que s'il a mis les tefilines, il a fait la volonté de Dieu. Maintenant, après qu'on l'a compris, qu'on l'a pas compris, c'est une autre question. J'aimerais qu'il comprenne. Comme ça, il aura envie de le faire encore.
D'accord?
Ça change rien. La volonté est là. Il a fait la volonté de Dieu.
Excusez-moi, je vais... Je pense... Parce que je vois souvent... Non. Des gens qui passent... Les téfilines, monsieur, on sent que... On le sent, on est humain. On voit que le mec, il veut pas vexer le petit jeune, ou il veut pas... Heureusement, c'est allez, je vais te faire plaisir. Je vais te faire plaisir. Et il le met pour faire plaisir.
Est-ce qu'il va le mettre?
Il aimait. Mais
bingo, ça y est, c'est bon, c'est fait. Il a attrapé, c'est fini, il a attrapé. Attendez, je dis pas qu'on va être un judaïsme seulement seulement d'action, sans réflexion, c'est pas ce que j'ai dit.
Non, le mec, il va se sentir obligé de le faire. Mais
obligé, non.
Comme il y a des gens,
il l'a fait ou pas? D'abord, il l'a fait, et en plus, il a pris goût. Je sais pas.
Ah si.
Je vais vous dire quelque chose. Ils ont fait un sondage. Ils ont fait un sondage récemment dans une yeshiva qui s'appelle Eshet Torah. Une yeshiva lituanienne qui est très très loin d'être abad, même peut-être même bon. D'accord. Attendez, écoutez bien. Ils ont fait un sondage. Ils ont posé la question aux balais de Tchouva là-bas. Ils leur ont dit quel a été votre premier déclencheur à faire Tchouva. 80. Ils ont pas dit le mot Lubavitch, mais 93% des gens ont répondu. On a mis les téfilines.
De quoi?
93%.
Ils ont dit quoi?
Ils ont répondu. Ils ont dit on a mis les téfilines. Et ça, c'est un déclencheur qu'après maintenant, c'est les familles qui sont vers Torah
Mitzvah. Je pousse un peu loin le bouchon.
Les sept, ils ont oublié qu'ils avaient des tefilines la première fois.
Je pousse un peu loin. Ces gens que tu croises dans la rue. Que vous voulez ou pas, particulière. Ces gens que tu croises dans la rue, si tu leur mettais des tefilines avec rien à l'intérieur, c'est leur est-ce que ça leur ferait le même effet?
Non, parce qu'ils ne font pas la mitzvah.
Donc c'est le fait qu'ils font la mitzvah qui fait cet effet.
D'abord, quel effet?
Le fait qu'après, ils vont devenir frères, ils vont faire mal.
Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être oui, peut-être non. C'est un deuxième but, ça. Mais le fait même qu'il a fait une mitzvah, c'est déjà une mitzvah.
D'accord avec moi que quelqu'un qui, si on nous dit que, par exemple, il faut avoir des bonnes pensées, etc. Quelqu'un qui sort d'une boîte de nuit et que tu arrêtes pour mettre les tefilines, il a la tête dans la boîte de nuit, mais les tefilines, à mon avis, ça ne vaut pas une mitzvah.
Ah, ça change rien. Ça change rien.
Sur le principe qu'il a donné au départ,
ça change rien. Tu sais à quoi ça ressemble? Je vais donner un exemple. Attends, je vais donner un exemple. Imagine-toi, par exemple, tu as un médicament à prendre. D'accord? Tu peux le prendre directement et tu peux le prendre enrobé. Ok? Imagine-toi maintenant qu'une personne, il va enrober le médicament avec des bêtises. Mais il l'avale! Eh ben, il a pris le médicament! Tu dis, oui, mais il était enrobé, etc., il s'est pas rendu compte, il a cru qu'il prenait un bonbon. Qu'est-ce que ça change?
On voit un placebo.
Il a pris le bon? Qu'est-ce que ça change? Il a pris le bon? Il a pris le médicament ou pas? Il l'a pris, c'est l'essentiel. Maintenant après, bien sûr, on aimerait qu'il sente ce qu'il fasse et qu'il le fasse de bon cœur. On aimerait, bien sûr qu'on aimerait. Qui n'aimerait pas?
Ça, c'est après.
Ça, c'est après. Il faut d'abord qu'il mange l'hameçon.
Non, mais là, tu prends l'exemple de l'enrobage du médicament. Mais si maintenant je prends un médicament et je l'enrobe à quelque chose qui est l'anticorps du médicament.
Ça change rien.
Si, le médicament n'a plus d'effet.
Oui, mais il n'y a rien qui peut être anticorps à une mitzvah.
Si,
la rien.
Machashava. La mitzvah, c'est le maasé. La machashava, c'est
il n'y a rien qui peut annuler l'action du mitzvah. Rien. Une mitzvah, c'est fait. Une mitzvah, elle est faite. On peut peut-être l'atténuer, lui donner moins de kavana, moins d'imp. Mais la mitzvah, c'est binaire. C'est comme la volonté. Soit c'est fait. Soit c'est pas fait. Si c'est fait, c'est fait.
Alors comment ça se fait que quelqu'un qui est rôlé méaïm, on dit que je mets pas les tefilines?
Parce que la même Torah qui a dit que vous mettez les tefilines, cette même Torah.
Donc quelqu'un qui est rôlé machashava encore plus.
Attends, je vais vous poser une question. Comment ça se fait par exemple que ma main elle est pas tout le temps en train de fonctionner, que des fois c'est la nuit qu'elle est en train de dormir? Parce que le même cerveau qui dit à la main, maintenant tu dois bouger, ce même cerveau il dit à la main quand ça arrive le moment de dormir, il dit maintenant tu dors.
Alors si déjà quelqu'un.
Alors attendez, donc la même chose.
Ah, voilà. Il ne doit pas mettre les tefilines, et quelqu'un qui a des problèmes de machashava.
Non,
c'est quoi le machashava?
Vous pensez. Chas v'shalom parle avec les étrangers. Alors, on continue. C'était pour tout ça. C'est pour ça. Nikraim evare de malka. Maintenant, vous allez voir comment ça va être fluide maintenant, parce qu'en vérité, on a déjà préparé le terrain. Velachen, c'est pour ça. Nikraim evare de malka. Voilà pourquoi les mitzvot sont appelés les membres du roi, les membres. Derech Machal, par exemple. Kemosh evare gufa adam emlevush lenafsho. De la même manière que les membres du corps d'un homme sont une expression de son âme, l'âme s'exprime au travers des membres. Uftelim legamre leami kol vakol. Et qu'un membre en bonne santé est un membre qui est annulé, qui est soumis à l'âme, à celui qui lui donne les directives, de la même manière. D'ailleurs, c'est quoi la preuve? On voit clairement, physiquement, que dès qu'un homme, dans sa pensée, dans sa volonté, il a envie, les hoshit yado. Dès la fraction de seconde que j'ai eu dans ma tête une pensée de tendre ma main. Est-ce qu'il y a eu un laps de temps de réflexion? Est-ce que ma main, elle a réfléchi et dit, attends, je décide, qu'est-ce que je fais? J'écoute le cerveau, je l'écoute pas. Peut-être oui, peut-être non. C'est automatique. C'est presque un automatisme. Et ça veut dire que la main, elle a une volonté propre, et ça, on le sait. Mais pourtant, elle est tellement soumise que il y a même pas le temps de réflexion. C'est quasi automatique.
Ça s'appelle un réflexe.
C'est un réflexe. Non, mais c'est, voilà, par exemple. Ma tête a pensé, je veux le verre. D'accord? Ma main a bougé. Pourquoi ma main a bougé? Parce que mon cerveau a dit, la main bouge. Maintenant, la main, elle a une volonté propre. La preuve, c'est que des fois, elle peut faire des siennes. Elle peut dire, non, je bouge pas. Donc, elle aurait pu dire non. Mais elle a dit oui. Pourquoi elle a dit oui? Parce que tellement elle est soumise qu'il n'y a même pas le temps de réfléchir oui ou non. Tu l'as demandé de le faire, il le fait. Ça, c'est l'exemple du membre. Alors il dit Blosh Mtsivu Iva Amira, donc tout de suite, dès que le membre, dès que la tête envoie un ordre, tout de suite, un membre en bonne santé le fait. Bloshum Sheya Klal, sans aucun instant, sans attendre aucun instant. Ke Ela, Ke Regamamash, Ke Shirala Pirtsono, à l'instant même dans lequel c'est venu dans ma volonté. Alors, quel est le Machal? Kar Der Machal, pareil. Achayut Shel Maase à Mitzvot, dans l'image qu'on veut expliquer ici, l'énergie des Mitzvot, ou Batel Le Gamre, Le Gabe, Ratson, Ayen, Amulu Bashbo. Quand je fais une Mitzvah, peu importe ce que moi je pense quand je fais la Mitzvah, ça change rien, ça va rien changer. Peu importe ce que le membre y pensait quand il l'a fait. Ce qui compte, c'est que quand le cerveau a donné une instruction, il l'a faite. Après, maintenant, ce que le membre pensait, est-ce qu'il était propre, est-ce qu'il était sale, concrètement, il a fait ce qu'il fallait faire. C'est pareil, ce qu'il dit ici. Il dit que quand on fait une mitzvah, l'action de la mitzvah, c'est mamash la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est complètement annulé devant Akadosh Baruch Hu. Vena aselo mamash kegouf le neshama. Quand je fais une mitzvah, le membre qui est en train de faire la mitzvah devient un outil qui va aider la Neshama à faire la mitzvah et qui va m'aider à accomplir exactement la volonté que Kadosh Baruch Hu voulait. Vechen, il en est de même. Allez-vous, shachitzon, shel nefesh elokit, shebe adam, mekaimos la mitzvah, sheu koach uprinat amas eshela, hu mitlabesh, bechayut shel maas la mitzvah, venaase gamken, ke gouf le Neshama, le rationnel, le batelev, le gamre. D'accord. Alors là, il pousse un petit peu plus loin. Il dit qu'en vérité, quand je fais une mitzvah, tous les membres de mon corps vont être utilisés pour faire la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est que la mitzvah soit faite. Maintenant, pour arriver à l'action de la mitzvah, je peux utiliser plusieurs membres. Je vais utiliser mes mains, mes pieds, ma tête, mes yeux, mes oreilles, mes narines. Je vais utiliser beaucoup de membres, d'accord? Et tous ces membres-là, c'est ça le ridouche, c'est que tous ces membres, au moment où ils vont faire la mitzvah, ils vont être enveloppés de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'exemple de membres. Qu'est-ce qu'on voit? C'est un très bel exemple. Quand, par exemple, j'ai décidé dans ma tête que je veux ce verre, et que donc, on est tout à l'heure, j'étais debout, d'accord, et comme je voulais ce verre, hop, j'ai bougé. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai bougé? Mon cerveau a eu une pensée, il a dit, il faut avoir ce verre. Il a transmis l'information à mon corps, à tous les membres de corps, il dit, il faut ce verre. Tous les membres de mon corps étaient impliqués dedans. Et s'il avait fallu sauter, ben j'aurais sauté. S'il aurait fallu bouger comme ça, j'aurais bougé comme ça. S'il faut voir, je vais voir. S'il faut entendre, je vais entendre. C'est-à-dire que tous les membres sont en pleine alerte, d'accord? Ils sont en état alerte pour accomplir la volonté de, pour accomplir la volonté du cerveau. Et un mouvement coordonné. C'est-à-dire que tous les membres sont emprunts, d'accord, de cette volonté. Et ben, c'est exactement la même chose. Quand, imaginez-vous ce qui se passe quand je fais une mitzvah. C'est énorme. Enfin, de l'autre côté pour la véro aussi, malheureusement, hein, mais bon. Quand je fais une mitzvah, tous mes membres sont en train de s'occuper. Alors j'ai la tête, les mains, les pieds, je me rends pas compte, c'est un automatisme, mais concrètement, c'est ce qui se passe. Tous mes membres sont en train de s'occuper comment accomplir la vraie volonté, la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est énorme quand je fais une mitzvah. Quand je fais une mitzvah, je m'en... c'est l'énergie divine, c'est la volonté de Dieu qui m'enveloppe tout mon corps. Seulement. Attention. Là, il y a une différence qu'on va expliquer entre les mitzvot et la Torah. Et là, j'arrive à la question que j'ai posée au début du cours. On n'aura pas le temps de terminer, mais au moins, on va avancer un petit peu. On a expliqué au début du cours qu'il y a la Torah et il y a les mitzvot. Et là, il y a une grande différence. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que j'ai envie de faire une mitzvah. Et que pour faire cette mitzvah, je dois utiliser plusieurs membres de mon corps. Je vais le faire. Très bien. Donc on a dit, quand j'ai utilisé les membres de mon corps, tous les membres de mon corps ont été entourés, ils ont été enveloppés par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, à ce moment-là, tous les membres sont occupés. Comment on va accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Très bien. Est-ce que le membre a changé? Est-ce que le membre est devenu Kadosh? Non. Les membres sont restés comme ils étaient, mais ils ont eu un grand niveau. C'est qu'ils ont été enveloppés d'une volonté divine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une mitzvah entraîne une autre. Puisque quand tes membres, ils sont dans le coup, d'accord? Ils sont dans le mood, comme disent les Américains. Quand ils sont dans le coup, ils sont déjà dans l'ambiance, eh ben, une mitzvah entraîne une autre. Très bien. Maintenant, imaginez que juste après que j'ai fait la mitzvah, je fais une avéra. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, malheureusement, ce qui se passe, c'est que je vais utiliser aussi tout mon monde pour faire l'avéra. Ça veut dire que ma tête a décidé, je vais faire cette avéra, et je vais utiliser tous les membres à mon service pour faire l'avéra. Qu'est-ce qui vient de se passer à ce moment-là? J'ai enlevé les vêtements de Kedusha qu'il y avait sur moi, les vêtements qui étaient en train d'être occupés à comment je vais faire la volonté de Dieu, et à la place, j'ai mis des vêtements sales. Est-ce que le membre est devenu propre ou sale? Le membre est ni propre ni sale. C'est on lui met des vêtements, on enlève les vêtements. Je mets un vêtement propre pour aller faire une mitzvah, D'accord? Donc tous les membres sont envie de faire la mitzvah. Ensuite, quand je fais une avéra, ben, malheureusement, j'ai enlevé ces vêtements-là et j'ai mis d'autres vêtements qui sont sales. Est-ce que le membre a changé? Le membre n'a pas changé. Ça, c'est les mitzvot. Ça veut dire qu'une mitzvah, la qualité qu'elle a dans une mitzvah, c'est qu'une mitzvah, c'est la volonté de Dieu. Et que peu importe que tu le comprennes ou pas, de toutes les façons, tu l'as fait. Mais il y a un défaut. C'est qu'une mitzvah ne peut pas rentrer dans quelque chose. En tout cas, dans mon corps. Elle peut pas rentrer dans mon corps. Elle peut pas me rendre kadosh.
Ah,
attention. Par contre, doucement, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Par contre, la particularité qu'il y a dans l'étude de la Torah, c'est quoi la particularité qu'on dit de la Torah? C'est que l'étude de la Torah, hein, que je le veux, que je le veux pas, ça rentre en moi. Et qu'est-ce qui va se passer? Imaginez par exemple, il vient à un cours de Torah. Il a écouté une heure de Torah, une heure de Tania. C'est-à-dire que maintenant, il a une heure de Tania dans sa tête.
D'accord? Tania, c'est considéré comme un cours de Torah?
Évidemment, c'est quoi alors? C'est du Coran? C'est quoi? Alors, tout c'est de la Torah. Alors, imagine-toi maintenant, voilà, je vais donner un exemple. Imaginez maintenant, voilà, on vient de passer une heure à étudier la Torah. Très bien. Donc, ça veut dire que je le veuille ou que je ne le veuille pas, même tous mes membres ont été occupés à écouter maintenant un cours de Torah. Donc, il y a eu les oreilles, il y a eu les yeux qui ont regardé, il y a eu le cerveau qui a retenu. Bon, il y a eu les membres qui ont été occupés par ça. Très bien. Donc, maintenant, j'ai une information de Torah qui est emmagasinée dans mon cerveau. Maintenant, même si je vous demande en deux heures après le cours de Torah, vous n'êtes pas capable de le faire. D'accord? Bon, c'est pas grave, on n'est pas capable de répéter des fois une idée, deux idées, mais on n'est pas capable de répéter. Mais l'information est rentrée en vous. Elle est en vous. Très bien. Maintenant, après le cours de Tania, vous allez rentrer chez vous et vous allez lire des bêtises. Peut-être, c'est possible. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous n'allez pas remplacer ce que vous avez dans la tête. Vous allez rajouter. Mais vous n'allez pas remplacer. Ce qui est entré dans la tête, il est rentré. Ça, c'est la particularité qu'il y a dans l'étude de la Torah. La particularité qu'il y a dans l'étude de la Torah, c'est que peut-être, il n'y a pas la qualité qu'il y a dans les mitzvot, comme on a expliqué, d'accord? Il n'y a pas cette qualité-là qu'on a dit que tout est dirigé vers ça et que j'en prenne la volonté de Dieu, etc. Il n'y a peut-être pas cette qualité. Mais d'un autre côté, il y a une grande qualité, c'est que quand une personne étudie la Torah, ça ne le lâche pas. C'est en lui. C'est fini l'ingérer, c'est trop tard. Quand il fait une mitzvah, il peut faire après une avéra et l'effet de la mitzvah, il est parti.
Est-ce que ça va l'aider à faire?
Maintenant, quand il va arriver en haut, on lui dira bravo, merci, t'as fait la volonté de Dieu. Mais juste après, t'as fait quelque chose qui n'était pas la volonté de Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu es? Ben, moi, je suis entre les deux, moi, je suis ni l'un ni l'autre. Donc, j'ai pas changé. Une mitzvah ne nous change pas forcément. Ça va me donner le goût d'en faire d'autres, mais ça me change pas intérieurement et profondément. Pour changer quelqu'un profondément et intérieurement, la seule manière passe par l'étude. Donc, c'est pour ça que j'ai, par l'étude. Parce que l'étude, je rentre l'information dans ma tête et ça m'échange. Donc, pour répondre à la question tout à l'heure, évidemment que quand je vais aller voir quelqu'un dans la rue et que je vais lui proposer de faire une mitzvah, de mettre les tefilines par exemple. Bon, il a mis les tefilines pour me faire plaisir. La mitzvah, il l'a faite. La volonté de Dieu, il l'a faite. Maintenant, c'est très possible. Alors, il y a deux options possibles après par la suite. Première option, c'est qu'il a pris goût et que grâce à ça, Bezrat Hashem, il fera teshuvah. Possible. Deuxième option qui est aussi possible, c'est qu'il ne fait pas teshuvah, mais qu'il continue sa vie comme si de rien n'était. Et que cette mitzvah ne l'a pas changé. Alors, ça lui a fait quelque chose à l'intérieur peut-être, mais en tout cas, il l'a pas changé. Pour réellement changer quelqu'un, il faut les deux. D'un côté, il faut la mitzvah, parce que la mitzvah, c'est la volonté de Dieu. Mais d'un autre côté, il faut aussi l'étude de la Torah, pour que ça rentre dans la personne, et que ça transforme la personne intérieurement.
Mais quand tu fais une mitzvah, tu mets les tefillin, et après, tu reprends ta vie tous les jours. Tu avais mangé des crevettes avant, tu vas manger des crevettes après. Et entre les deux, tu as mis les tefillin.
Bon.
D'accord. Oui, attends,
c'est Jacob le pêcheur.
Ouais. Et mais n'empêche que pendant le temps où tu as mis les tefillin, la personne, elle a fait teshuva.
Oui, peut-être, oui, c'est sûr.
Pendant le temps où elle a fait la mitzvah, elle était vraiment dedans.
Mais rien ne peut remplacer des mots de Torah.
C'est sûr.
Mais d'un autre côté, l'action est l'essentiel. Mais il faut les deux.
Tu mets le paquet sur l'étude, mais tu prends.
Non, attention, je ne mets pas le paquet sur l'étude. Non, attention. L'action est l'essentiel.
Quand tu ingères physiquement, tu as fait la bracha, tu n'as pas donné à Sitra Hara sans parler de Machava, donc tu as vraiment mangé Yirat Shamaim, d'accord? Tu as mangé, qu'est-ce que tu as fait? Tu as nourri ton corps pour faire d'autres mitzvahs. Tu as élevé la matière, tu as fait une mitzvah et tu élèves ton corps. Donc, c'est vraiment interne à ton corps.
D'accord. Je vais donner un exemple. Je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure du roi qui a demandé qu'on lui fasse un palais. Tu me suis, Yavner? Je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. On va finir avec ça. L'exemple du roi qui a demandé qu'on lui fasse un palais. Alors, on va analyser le côté Torah et le côté mitzvah dans cet exemple. Le côté Torah, c'est quand tu as des gens qui comprennent comment fonctionne le palais. Ouais. Qui vont comprendre la beauté, etc. Bon, on comprend. Le côté mitzvot, c'est les employés qui ont fait la peinture. Écoute bien. Imagine-toi qu'on prend un employé, on lui bande les yeux, on le met devant un mur de cette bâtisse en construction, et on lui dit, tu prends ton pot de peinture et tu fais cette couleur. Ni il voit ce qu'il y a avant, ni il voit ce qu'il y a après, ni il voit les fresques qu'on va mettre dessus, il voit rien, il voit juste le coup de peinture. Tu comprends ? Le côté mitzvah, bah, il a fait la mitzvah. Il a fait ce que le roi a demandé, il est en train de faire la volonté du roi. Mais maintenant, est-ce que ça va le changer ? Est-ce que quand il va rentrer chez lui, le soir, il va dire « Waouh, j'ai fait le palais du roi » ? Non, il ne le fera pas. Parce que, bon, il a... concrètement, le roi, il lui dira « Merci, merci d'avoir fait ce que tu voulais. » Mais est-ce que lui, il a été...
Il n'a pas la compréhension.
Mais est-ce que lui, il a compris ? Il n'a pas compris.
Il n'a pas le dar.
Exactement. Mais d'un autre côté, celui qui va étudier la Torah, si tu veux, c'est le touriste qui va être là et qui va regarder, etc. Le bonhomme, il va rentrer chez lui le soir, il va dire « J'ai vu un beau palais. » Et ça va le marquer. Il faut les deux. L'essentiel, c'est l'action. C'est de faire le palais. Mais quand tu fais que ça, c'est quoi le problème ? C'est qu'après, ça a du mal à avoir un impact durable sur toi. C'est un impact momentané. Qui va peut-être te pousser à faire d'autres. Mais bon.
Donc si on en revient à ce que disait Abraham, l'étude, elle va influer sur la kavana.
Non, je rentre pas sur la kavana. Elle va influer sur le long terme, pour me changer intérieurement, pour changer ma manière de voir les choses. Si tu veux, la mitzvah, c'est pour faire ce que je dois faire.
L'étude, c'est le fond. On dit Esh HaTorah, on ne dit pas Esh HaMitzvah.
La mitzvah, c'est pour faire ce que je dois faire. La Torah, c'est pour comprendre pourquoi je dois le faire. Quand tu comprends ce que tu fais, tu changes. Ouais. D'accord ?
Maintenant, juste si je peux revenir.
Ouais.
Deux personnes peuvent mettre les tefillin, une faire le Ratzon Hashem et l'autre non.
Non.
Impossible.
Impossible.
Alors, je m'explique comment ça se fait. Kadosh Baruch Hu dit par l'intermédiaire de Yirmiyah HaNavi, je veux plus de vos korbanot.
Oui, c'est façon de parler. Bon, mais j'ai eu d'avis.
Comment ça ?
C'est façon de parler.
Ça veut dire... deux mots, en faisant la mitzvah des korbanot, vous ne faites pas mon ratzon, vous ne faites plus mon ratzon.
Non, ça veut dire que toi, non, c'est-à-dire que Dieu il se plaignait que les gens font les choses par routine. Ah. C'est une autre chose. Mais de dire qu'on n'a pas fait ce que Dieu demandait, c'est faux.
C'est ce qu'il dit.
Non, il dit pas, vous faites pas ce que je demande.
Il dit, je n'en veux plus. C'est-à-dire,
ça arrêtez, change pas.
Il dit pas à continuer.
La mission a été faite. C'est comme ce chips-là. Quand je le prends, que je le prenne et que je l'aime, que je le prenne, je l'aime pas. Si je l'ai mangé, je l'ai mangé, c'est terminé. Je l'ai fait. Même si je supporte pas les chips, si je l'ai mangé, il est en moi maintenant. Ça change rien. La mitzvah, une fois que tu l'as faite. C'est fait. D'accord ? Bon, on va développer. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour résumer le cours d'aujourd'hui en un mot, on a expliqué pourquoi les mitzvot étaient comparées à la volonté, puisqu'une volonté c'est binaire et que quand il faut faire exactement comme Dieu a demandé. On a expliqué pourquoi les mitzvot c'est la volonté de Dieu, pas la volonté annexe. On a expliqué pourquoi les mitzvot sont comparées aux membres, puisque les membres sont complémentaires et chaque membre a sa fonction, le même dans chaque mitzvot a sa fonction. Et on a expliqué aussi pourquoi les mitzvot sont comparées aux membres, puisque d'un côté les membres ont une volonté propre, mais d'un autre côté ils savent être soumis à des directives principales. De la même manière, les mitzvot c'est quoi ? C'est la volonté de Dieu, qu'on les comprenne ou qu'on les comprenne pas, il faut être soumis à la directive principale de Kadosh Baruch Hu, même si on n'a pas compris, ce qui compte, c'est d'avoir fait la mitzvah. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci. Alors, le cours de la semaine prochaine, ça va être surtout sur la Torah. Maintenant. On va parler du cerveau, de la Torah, des mots de Torah, des pensées de Torah, des paroles de Torah. Qu'est-ce qui se passe quand on étudie la Torah? On va parler de l'importance de l'étude. Là, c'est encore une autre paire de manches. Oui, pourquoi pas, bien sûr.
Tu n'as pas prié, messieurs.